Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ils sont dans le viseur de celui qui sera sans doute le prochain chancelier conservateur, Sébastien Kurz. En Autriche, les jardins d'enfants musulmans doivent essuyer les critiques très politiques qui se sont multipliées durant la campagne pour les législatives. Communautarisme, ghettoïsation ou au contraire développement dans le respect d'une culture et d'une religion minoritaire, le débat se poursuit à Vienne. Céline Béal est justement allée visiter une de ces crèches privées controversées.
Dans ce jardin d'enfants du 15e arrondissement viennois, on entend bien des langues différentes. Turc, arabe, serbo-croate, roumain, mais aussi l'allemand, qui est la langue utilisée par les puéricultrices. Diversité dans les origines, moins dans la religion. Plus de 80% des marmots sont musulmans. La directrice, Margit Abou El-Ezartel, explique qu'en 2008, à l'ouverture de la crèche, elle n'avait pas cherché à fonder un établissement confessionnel. Elle voulait seulement pouvoir y porter un voile sur ses cheveux, sans froisser personne.
Je crois que pour les parents, il est important de rentrer chez eux avec le sentiment que leurs enfants vont être traités avec 100% de respect, que leur identité et leur culture seront bien considérées.
Ici, les quelques 120 petits pensionnaires récitent une courte prière avant chaque repas. La nourriture est halal et l'accès à la cuisine interdit aux hommes pour que la cuisinière puisse retirer son voile. A priori, pas de quoi déclencher l'émoi public. Mais au cours de la dernière campagne pour les législatives, le ministre Sébastien Kurz a exprimé son vœu de voir fermer les lieux d'accueil comme celui-ci. Celui qui est en passe de devenir le nouveau chancelier autrichien les suspecte d'être le terreau d'une société parallèle peuplée de djihadistes en herbe. Selon la directrice, ces accusations relèvent d'une manipulation islamophobe.
Ce qui est triste, c'est que cette polarisation provoquée par les médias et les politiques fait qu'encore moins de familles non musulmanes s'intéressent à notre crèche. Je suppose que c'est la même chose dans d'autres établissements. Du coup, la mixité stagne maintenant, alors qu'en fait, nous la recherchions et qu'elle avait peu à peu progressé ces dernières années.
Depuis des années, le parti d'extrême droite FPE a imposé les thèmes islam, migration et intégration dans le débat public. Mais cette année, les conservateurs s'en sont emparés et Sébastien Kurz les a mis au centre de sa campagne, avec le succès que l'on sait. Le numéro 5 sur la liste Kurz, Evgeny Dönmez, est son spécialiste de l'intégration. À la terrasse d'un café du centre-ville, il sort son téléphone pour y montrer des photos d'enfants.
Ce sont des images qui ne viennent pas de Téhéran, d'Arabie Saoudite ou de Turquie, mais d'Autriche, de Vienne. Des petites filles de moins de 5 ans voilées de la tête aux pieds qui apprennent des versets du Coran par cœur alors qu'elles ne peuvent pas les comprendre. Les voilà, les valeurs et les manières de faire qu'on y apprend dans ces jardins d'enfants.
Dans le 15e arrondissement, la directrice Margit Abou El-Ezartel explique que ces clichés, en partie tirés de son site internet, seraient sortis de leur contexte, celui d'une petite pièce théâtrale sur le pèlerinage, les petites filles ne portant sinon pas de voile chez elles. Alors, qui croire ? Les autorités ont bien commandé une étude, mais les méthodes employées pour la réaliser n'ont pas encore été validées par l'université de Vienne. Si on en croit cependant les résultats, la capitale pourrait compter plus d'une centaine de crèches problématiques. Selon Evgeny Dönmez, elles sont sous une influence politique venue de l'étranger.
Ici à Vienne, nous avons affaire à une tendance de l'islam politique qui est très bien organisée. Ce sont des fédérations d'associations très réactionnaires, nationalistes, islamistes, proches des frères musulmans et des réseaux d'Erdogan. Ils y diffusent une idéologie et des manières de faire qui sont en réalité diamétralement opposées à notre société ouverte et démocratique.
Le parti de Sébastien Kurz accuse la municipalité viennoise, de gauche, confrontée à une pénurie de places en crèche, d'avoir fait preuve d'un dangereux laxisme dans l'attribution des autorisations d'ouverture. À la mairie, le conseiller municipal chargé de l'éducation, de l'intégration et de la jeunesse est un jeune social-démocrate. Jürgen Tchernohorski refuse de cantonner l'entretien au seul jardin d'enfants musulmans. Le seul problème qu'il reconnaît, c'est celui d'une potentielle ghettoisation.
Il y a quand même une chose que je voudrais dire. C'est un défi que l'on connaît dans les villes. Il suffit de prendre n'importe quelle agglomération européenne. Évidemment qu'il y aura des défis dans certains quartiers où l'on trouve des groupes homogènes socialement et que l'on retrouve cette homogénéité dans les lieux scolaires.
Pour assurer la qualité de l'accueil de tous les petits Viennois, y compris dans les crèches privées, il a donc mis sur pied un plan d'action qui prévoit des contrôles renforcés, mais aussi un plus grand accompagnement des garderies pour une qualité pédagogique et une transparence conforme aux valeurs de la République autrichienne. La municipalité espère que cela suffira à apaiser la polémique, mais surtout permettra de protéger les enfants des embrigadements de tous bords.
C'est un petit paradis pour touristes en Grèce. L'île de Santorin est connue dans le monde entier pour ses maisons blanches à flanc de falaise et ses bougainvilliers roses qui tombent en cascade. Mais derrière la carte postale, les agents de l'État et surtout les enseignants peinent à se loger. Les prix ont flambé avec les locations saisonnières. Il y a donc urgence à trouver une solution. En Grèce, Charlotte Stivenard.
L'île de Santorin est un petit paradis sur terre. Avec son vin et sa baie, la caldeira, elle attire des millions de touristes. Mais selon Ioannis Miliadis de l'Union des enseignants du premier degré de l'île, elle est loin de figurer en tête sur la liste des vœux des instituteurs et professeurs. Avec l'austérité, l'État grec fait désormais surtout appel à des contractuels. Ils reçoivent leur affectation 2 jours avant la rentrée. Ils doivent donc se précipiter sur leur lieu de travail. En septembre, ceux qui sont arrivés à Santorin ont eu une mauvaise surprise. Ils n'ont pas réussi à se loger. Le maire de Lille a même été obligé de lancer un appel à la solidarité citoyenne avec un slogan un peu ironique « Adopte un enseignant ». Et comme le temps pressait, il s'est mis d'accord avec les hôtels pour les loger gratuitement pendant 15 jours jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. Il souhaite désormais régler cette situation ubuesque car les enseignants ne sont pas les seuls affectés. Chaque année, policiers, pompiers ou autres employés de l'État ont le même problème. Le phénomène n'est pas nouveau, explique Marcos Kafouros, adjoint au maire en charge des questions d'éducation. Mais selon lui, la situation a vraiment empiré cette année avec le développement des Airbnb, la plateforme de location d'appartements de particulier à particulier. Beaucoup d'habitants louent à la journée à des prix qui font monter les loyers. L'Union des enseignants voudrait que ces locations soient limitées à 90 jours par an, comme le prévoyait la loi. Avec des salaires bas en plus, 1000 euros par mois de septembre à juin seulement, difficile pour eux de vivre sur place. On peut certes trouver des loyers pour 350 euros par mois, mais la vie est chère sur cette île très touristique. L'essence, par exemple, coûte 1,80€ à Santorin contre 1,40€ à Athènes. Devant ces difficultés, la mairie a proposé à l'État de rénover des bâtiments qui appartiennent au ministère de l'Économie pour les transformer en habitations et ainsi offrir aux employés de l'État des conditions de vie décentes. Coût de l'opération, 250 000 euros.
Changer de vie, passer le périphérique, fuir la ville pour se mettre au vert. En Hongrie, des citadins trentenaires ont fait le choix de quitter leur emploi bien rémunéré pour se lancer dans l'agriculture. Pas tout à fait fou dans un pays qui a reçu 1,7 milliard d'euros de l'Europe pour développer son agriculture. Les aides de la PAC viennent ainsi soutenir économiquement la reconversion professionnelle de Chandor et Reka avec leurs 2 enfants. Ils ont réalisé un vieux rêve, celui d'une vie à la campagne, au reportage signé Florence Labruyère.
Autour de la table familiale, Chandor et sa compagne Reka font goûter leur confiture maison. C'est délicieux.
C'est une confiture de sureau et de griotte. Nous, on cultive le sureau. La confiture, c'est notre coopérative qui l'a fait. On est 130 dans cette coopérative.
Chandor et Reka ont quitté Budapest il y a 4 ans pour démarrer une exploitation agricole à Mezőszilágy, à 100 km de la capitale hongroise. Avant, Reka travaillait comme assistante marketing d'une grande firme internationale. internationale. Cette citadine rêvait de s'installer à la campagne. J'avais un job intéressant, c'était stimulant, on travaillait énormément. Mais après la naissance de mon premier fils, c'était un peu trop. Cette vie excitante où on ne faisait que travailler. Et puis j'avais une vision romantique de la vie rurale. Je me disais, on sera plus libre. Maintenant, la ville me manque un peu, mais pour les enfants, c'est vraiment un cadre idéal. Si Reka est citadine dans l'âme, Sándor, lui, avait déjà un pied à la campagne. Tout en travaillant à Budapest, dans le commerce de pièces détachées pour voitures, il venait régulièrement aider son père, petit agriculteur. Quand son père est mort, Sándor a hérité d'une partie de ses terres.
On a 21 hectares, je suis le propriétaire, mais ma femme me loue la moitié de mes terres.
Sándor nous emmène voir son exploitation. C'est un paysage doucement vallonné et balayé par le vent. Le couple produit un peu de maïs et de tournesol, mais essentiellement du sureau.
Vous voyez le sureau, il a des petits fruits noirs. Avec sa fleur blanche, on fait du sirop. Tout est bon dans cette plante. Autrefois, on l'appelait la pharmacie du pauvre. Nous, on cultive les fruits et on en vend une bonne partie à l'industrie alimentaire. Ça sert par exemple à faire du colorant.
La Hongrie est le premier producteur mondial de sureau, un fruit très prisé par l'industrie agroalimentaire. Le couple a donc investi dans une valeur sûre, même s'il ne produit que 70 tonnes par an.
Et là, ce petit pylône, cette petite tour avec une antenne, qu'est-ce que c'est ?
C'est une petite station météo. Elle mesure la température ambiante, combien de millimètres de pluie il est tombé, la vitesse du vent et aussi la richesse du sol en minéraux. Et je peux surveiller tout ça à distance sur Internet.
Retour à la maison, une maison de village toute simple, dont Sándor et Reka ont hérité, ce qui a facilité leur installation. Mais c'est surtout grâce aux fonds européens qu'ils ont pu changer de vie.
On reçoit 1200 euros par hectare pour la production de fruits. Ça comprend la subvention de base, ainsi qu'un soutien à la culture des fruits et à l'agriculture durable. De plus, Reka a reçu 40 000 euros au titre de la dotation aux jeunes agriculteurs pour démarrer l'exploitation. On a déjà reçu 90% de cette somme, le reste sera payé plus tard.
Sándor et Reka reçoivent donc 14 000 euros par an de subventions pour la culture du sureau. Cela leur assure un revenu régulier. Ils ont chargé un consultant de déposer des demandes d'aide à l'Union européenne en échange d'un pourcentage. Une gestion astucieuse que Sándor essaye d'optimiser.
On essaye d'utiliser ces fonds européens pour diversifier nos cultures et pour qu'elles soient rentables après 2020. Car l'Union européenne finance jusqu'à cette date, mais après on ne sait pas ce qui va se passer. Notre but est d'avoir une exploitation viable qui puisse faire face à une baisse des subventions.
Même s'ils ont beaucoup de taxes à payer, tous deux ont un revenu plus élevé que lorsqu'ils étaient salariés. Et pour Reka, il y a une chose qui n'a pas de prix.
On a beaucoup plus de liberté. On peut répartir le temps de travail comme on veut. J'ai plus de temps pour ma famille, pour les enfants, même si on travaille plus qu'avant. Mais on a un meilleur niveau de vie.
Pour ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, Sándor et Reka veulent aussi planter des pommiers. Et pour cela, ils viennent de faire une demande de subvention européenne.
Livre. Le travail de mémoire est au cœur du livre « Les amnésiques » de Géraldine Schwartz, entre récits intimes et historiques. Cette journaliste franco-allemande s'est penchée sur la manière dont les Allemands sont passés de la dictature du Troisième Reich à la démocratie. Comment ont-ils assumé leur part de responsabilité, de trahison et de lâcheté ? Pour mieux comprendre, elle a rencontré des citoyens ordinaires, mais aussi des membres de sa propre famille. Sylvie Noël lui a demandé à qui elle adressait ce livre, ce qu'elle nomme donc les amnésiques.
Le livre s'adresse aux Européens qui, je pense aujourd'hui, ont tendance un peu à oublier le travail qui a été réalisé depuis l'après-guerre pour instaurer une démocratie réussie dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui ont un peu tendance à être sensibles au populisme de droite comme de gauche qui déferle sur l'Europe depuis quelques années. Donc j'ai voulu m'adresser à ces amnésiques par ce récit personnel.
Alors, il débute dans la ville allemande de Mannheim, qui est le fief de la famille de votre père. Alors, c'est une famille, vous l'écrivez, qui pendant la Seconde Guerre mondiale n'a été ni du côté des héros, ni du côté des bourreaux.
Oui, c'est ce qu'on appelle les Mitläufer. Donc ce sont ceux qui marchent avec le courant. Et c'est une partie de la population qui est très importante, parce que d'abord ça représente la majorité. Et sans ces Mitläufer, une dictature comme le Troisième Reich n'aurait pas pu exister.
Vous écrivez, hein, ce sont les petits aveuglements, les petites lâchetés de cette majorité qui, mis bout à bout, ont créé les conditions nécessaires au déroulement des crimes nazis.
Oui, ce ne sont pas des criminels, ils n'ont pas de sang sur les mains, mais ils ont contribué par leur passivité, par leur aveuglement et par conformisme surtout, à faire réussir cette dictature et puis surtout ces crimes. Et j'ai voulu m'intéresser justement à ces personnages qui sont assez banals, comme mes grands-parents, comme mon grand-père, qui a pris certes la carte du parti nazi, mais qui n'était pas un national-socialiste de cœur, qui n'était pas convaincu, mais qui y a vu des opportunités.
Et ce qui déclenche un petit peu votre enquête dans votre récit familial, c'est le fait que votre grand-père a aussi racheté dans les années 30 une entreprise qui appartenait à une famille juive qui vivait à Mannheim.
C'est plus tard que j'ai appris que la société, la petite société pétrolière que je connaissais, avait en fait appartenu à des juifs auparavant. Donc j'ai fait des recherches dans les caves de l'immeuble familial à Mannheim. Et là, mon grand-père avait tout gardé, toutes les copies de ses lettres, de ses échanges, de ses réclamations concernant une entreprise achetée donc en 1938. Et cette date est très importante parce que c'est l'année de la descente aux enfers pour les Juifs en Allemagne. Et donc les Juifs n'ont pas le choix à l'époque. Et je me suis interrogée pour savoir est-ce que mon grand-père était conscient de ces circonstances. Et je suis tombée sur des lettres qu'il avait échangées avec un survivant de cette famille Le Mann à laquelle appartenait l'entreprise à Mannheim. C'est le seul survivant en fait de la famille Le Mann qui a fui à Chicago tandis que toute la famille a péri à Auschwitz et qui réclame après la guerre à mon grand-père des réparations. Et dans ces lettres, on voit que mon grand-père est dans le déni total. Il refoule, il reconnaît finalement pas son tort. Et ça dure pendant 5 ans. Et je me suis demandé si c'était représentatif de l'Allemagne de l'époque, ce qui est le cas, et comment l'Allemagne avait fait pour passer donc de cette mentalité de refoulement et d'amnésie totale dans les années 50 à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quand même une Allemagne qui est extrêmement consciente de ce passé-là.
Et vous revenez effectivement sur les différentes étapes du devoir de mémoire en Allemagne, avec cette jeunesse dans les années 60 qui va vouloir véritablement trouver la vérité sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et avant en Allemagne. Et alors, donc, dans cette recherche-là, il y a un autre membre de votre famille qui est très important, c'est votre papa.
Grâce à ce livre, je me suis beaucoup rapprochée de mon père, que j'ai interviewé pour savoir comment cette mémoire s'était transmise de ses grands-parents à lui-même. Et donc il m'a raconté les heurts, les batailles même, hein, presque les courses-poursuites entre son père et lui-même lorsque il le confrontait avec l'histoire de l'entreprise juive rachetée en 1938 et de manière générale avec le Troisième Reich. Et j'ai été très étonnée de voir que mon père, dès l'âge de 16 ans, s'est intéressé à des livres qui à l'époque étaient quasiment interdits. Ça m'a bouleversée en fait de voir à quel point il avait été visionnaire à l'époque. Et je pense qu'il m'a transmis cette éducation par la suite.
Vous terminez un petit peu la partie consacrée à l'Allemagne sur l'afflux de plus d'1,5 million de réfugiés en 2015 dans ce pays. Et vous le replacez dans une perspective historique. Pour vous, cet accueil a été important justement dans cette perspective historique pour le peuple allemand?
Quand l'Allemagne a ouvert ses frontières aux réfugiés en 2015, pour moi, c'était comme le symbole d'une page sombre en fait qui se termine, et le peuple allemand soudain a pris vraiment le meilleur rôle qu'il puisse imaginer, c'était celui de chevalier de l'humanité. Malheureusement, l'accueil n'a pas été le même en ex-RDA, et aujourd'hui on en voit les conséquences parce que un parti populiste allemand, l'AfD, est entré au Parlement allemand, ce qui est une première depuis 1945 pour l'Allemagne, et qui révèle à quel point le manque de travail de mémoire sous la RDA porte à conséquence aujourd'hui.
Les amnésiques de Géraldine Schwartz est publié aux éditions Flammarion. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission Européenne. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute dans quelques instants. Un nouveau point sur l'information sur RFI.